Jean Lorrain, le possédé. Oui, me déclarait Serge, il faut que je m'en aille, je ne peux plus demeurer ici. Et ce n'est pas parce que gigolote, tout l'organisme a jamais refroidi par les pintes de sang que les chirurgiens me soutirent depuis des mois. Non, le coffre est encore bon, Dieu merci. Et avec des précautions, je suis relativement sûr de mes bronches. Mais je ne peux pas hiverner ici parce que, dès les premières bourrasques de novembre, j'y deviens halluciné, quasi fou, en proie à une obsession vraiment affreuse. En un mot, parce que j'y ai peur. Et devant la fixité de mon regard, « Oh, on ne va pas croire à des troubles des terres. Je suis guéri, radicalement guéri. Je suis intoxiqué d'ailleurs, et le poison qui, il y a 2 ans à peine, répandait dans toute mon âme une alacrité d'air plus vif avec je ne sais quelle délicieuse sensation d'impondérable, les terres aujourd'hui me rompent bras et jambes. J'ai gardé pendant 3 jours dans tous les membres une véritable courbature. La dernière fois, il y a 1 an de cela, que j'en ai respiré. Au reste, pourquoi en prendrais-je? Je n'ai plus ni insomnie, ni étreinte au cœur. Ces gonflements et ces lourdeurs d'éponge sous le côté gauche, ces atroces sensations d'agonie qui me dressaient brusquement sur mon lit avec toute ma chair moite, le frisson de la petite mort, oh, tout cela n'est plus pour moi qu'un lointain cauchemar, comme un vague souvenir des contes d'Edgar Poe qu'on aurait lu dans mon enfance. Et vraiment, quand je songe à cette triste période de mon existence, je crois l'avoir moins vécu que rêvé. Et pourtant, il faut que je parte. Je retomberai malade dans ce Paris fantomatique et hanté de novembre. Car le mystérieux de mon cas, c'est que j'ai la terreur non plus de l'invisible, mais de la réalité. De la réalité. Et comme j'appuyais intentionnellement sur les mots, un peu dérouté par ce dernier aveu, « De la réalité !» répétait Serge en scandant chaque syllabe. « C'est dans la réalité que je deviens visionnaire. Ce sont des êtres en chair et en os rencontrés dans la rue, c'est le passant, c'est la passante, les anonymes même de la foule coudoyée qui m'apparaissent dans les attitudes de spectre. Et c'est la laideur, la banalité même de la vie moderne qui me glace le sang et me fige de terreur. » Et, s'asseyant brusquement sur un coin de table, ce n'est pas d'aujourd'hui, tu le sais, que je suis visionnaire. Quand j'étais un misérable damné de l'éther, tu m'as vu en 2 ans changer 3 fois l'appartement pour échapper à la persécution de mes rêves. Je peuplais littéralement les chambres de fantômes. Ils étaient en moi, et dès que je me trouvais seul dans quelques pièces closes, l'atmosphère ambiante, toute grouillante de larves, comme une goutte d'eau vue au microscope, pleine de microbes et de diffusoires, laissant transparaître à mes yeux l'épouvantable force d'ombre. C'était l'époque où je ne pouvais promener mes regards dans la solitude de mon cabinet de travail sans voir surgir d'équivoques pieds nus au ras des portières ou d'étranges mains pâles dans l'intervalle des rideaux. L'affreuse époque où l'air que je respirais était empoisonné par d'horribles présences et où je me mourais, exténué par d'incessantes luttes contre l'inconnu, à demi fou d'angoisse au milieu de blêmes rampements d'ombre et d'innombrables frôlements. Mais que tout cela est loin. Je suis guéri, Dieu merci. J'ai retrouvé mon appétit et mon sommeil de 20 ans. Je dors comme un loir, je mange comme un ogre, et tout cet été, j'ai couru à la montagne avec un entrain d'écolier. Mais pourtant, il faut que je m'en aille, et cela au plus vite, car l'ignoble névrose est là, qui me guette et m'attend. La peur est en moi, et moi qui me connais, j'ai peur de cette peur. Serge s'était levé. Il arpentait maintenant la pièce à grands pas, les mains croisées derrière le dos, le front comme buté et les yeux au tapis de haute laine. Et puis tout à coup, il faisait halte. As-tu remarqué comme la laideur des gens rencontrés dans la rue, des petites gens surtout, ouvriers se rendant à leur travail, petits employés à leur bureau, ménagères et domestiques, s'exaspèrent et s'aggravent d'aspect quasi fantastique dans l'intérieur des omnibus. Avec les premiers froids, mais cela devient terrible. Est-ce le souci quotidien des basses besognes, le poids déprimant des préoccupations mesquines, la terreur des fins de mois, des échéances et des dettes qui ne paieront jamais, la lassitude de tous ces sans-le-sous aux prises avec la vie, une vie rance et sans imprévu, toute la tristesse même d'éclater sans une pensée un peu haute, sous le crâne ou dans un rêve un peu vaste au cœur? Toujours est-il que je n'ai jamais vu nulle part plus ignoble caricature de visage humain. Cela en devient hallucinant. Est-ce le sentiment de leur laideur, tout à coup mise face à face, la brusque détente de l'organisme, s'oubliant une minute sur la tiédeur des banquettes ou la délétère influence de l'atmosphère puantie? Mais un subit avachissement semble s'emparer de tous les êtres entassés là. Ceux qui sont debout luttent encore, préoccupés animalement de ne pas tomber de la plateforme. Mais les grosses dames écroulées aux quatre angles de l'extérieur, les vieux ouvriers aux doigts noueux, aux pauvres niques jambonnées par le froid, aux pauvres cheveux rares et la physionomie chafouine des bonnes en course, l'air chlorotique et vicieux, les yeux obliques toujours chavirés d'un coin à l'autre sous les paupières flasques, d'équivoques messieurs boutonnés jusqu'au cou dont on ne voit jamais le linge. Mais peut-il exister, mon cher, sous la terne clarté d'une journée de novembre, un plus morne et répugnant spectacle que celui de l'intérieur de tramway? Le froid du dehors a durci tous ses traits, comme figé tous ses yeux, et contracté ses fronts qu'il a coiffés d'un casque. Les regards vitreux, sans expression, sont des regards de fous, de somnambules. S'ils ont une pensée, c'est pis, car la pensée est ignoble ou sordide, et les regards sont criminels. On n'y voit luire et passer que des éclairs de lucre et de vol, la luxure, quand il y apparaît vénale et spoliatrice. Chacun en son fort intérieur ne songe qu'au moyen de piller et de duper son prochain. La vie moderne, luxueuse et dure, a fait à ces hommes comme à ces femmes des âmes de bandits ou de garde-chiourme. L'envie, la haine et le désespoir d'être pauvres font aux uns des têtes aplaties et revêches, des faces sorces aiguisées et retortes de musaraignes et de vipères. L'avarisme et l'égoïsme donnent aux autres des groins de vieux porcs avec des mâchoires de requins. Et c'est dans un bestiaire où chaque bas instinct s'imprime en trait d'animal, c'est dans une cage roulante pleine de fauves et de batraciens, cocassement vêtus comme les personnages de Granville, de pantalons, de châles et de robes modernes, que le voyage et que je circule depuis le commencement du mois. Car j'ai pas 25 000 francs de rente, moi, et je prends le tramway, tout comme mon concierge. Eh bien, cette perspective de cohabiter, ne fût-ce qu'une heure par jour, avec des hommes à tête de pourceau et des femmes à profil de volaille, hommes de loi pareils à des corbeaux, voyous aux yeux de loups cerviers et trottins de modistes à face aplatie de lézard. Cette promiscuité forcée avec tout l'ignoble, l'innommable de l'âme humaine, remontée sous la fleur de peau, oh, cela est au-dessus de mes forces. J'ai peur, comprends-tu ce mot, j'ai peur? L'autre jour, pas plus tard que samedi, l'impression de cauchemar a été si forte. C'était dans le tramway du Louvre à Sèvres, et la détresse d'un paysage de banlieue, les quais déserts de l'avenue de Versailles, exacerbait peut-être encore l'angoissante laideur de tous ces visages, que j'ai dû faire arrêter et descendre en pleine solitude des berges du Point du Jour. Je ne pouvais plus en supporter davantage. J'avais aigu à en crier, grâce à la conscience que tous les gens assis en face et autour de moi étaient des êtres d'une autre race, à moitié bêtes, à moitié hommes, des espèces de spectres ayant vie, produits ignobles, je ne sais quel monstrueux coït, espèce d'anthropoïde plus près de l'animal que de l'homme, et incarnant chacun un instinct bas et malfaisant de bêtes puantes, de grands carnassiers, d'ophidiens ou de rongeurs. Il y avait, entre autres, juste devant moi, une plate et sèche bourgeoise, au long cou granulé comme celui d'une cigogne, aux petites dents dures et écartées dans une bouche béante de poisson, et dont l'œil à paupières membraneuses, à pupilles extraordinairement dilatées et béates, effarées. Cette femme était la sottise même, elle l'incarnait, elle l'identifiait d'une façon définitive, et un effroi grandissant me poignait. L'effroi qu'elle n'ouvrit la bouche et n'émit une parole. Elle eut, j'en suis sûr, gloussé comme une poule. Cette femme était de basse-cour, une grande tristesse. Un navrement infini me prenait devant cette dégénérescence d'un être humain. Une broche camée agrafait les deux brides d'un chapeau de velours mauve. Oh, j'ai préféré descendre. Et tous les jours, en tramway, en omnibus, en wagon même, où la hideur des visages de spectres s'horrifie la nuit à la clarté des lampes, les mêmes profits d'animaux se dégagent lentement des faces entrevues, et cela pour moi seul, rien que pour moi. C'est une possession, que veux-tu ? Aussi, oh, j'en ai pris mon parti. Je fuis cet enfer, je pars.